Et je vous invite à lire ce matin dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 1. Et nous sommes au milieu d'une bataille, d'une guerre, si vous préférez. Et la parole de Dieu nous dit « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » « Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ses 10 pains et cours au camp vers ses frères, vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles, sûr. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu as un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour le marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Un grand récit, un long chapitre. Et on se demande finalement ce matin, qui sont nos géants à nous? Et c'est peut-être la question et le titre du message, qui sont tes géants? Et peut-être que ce matin, nous savons que bien des géants peuvent nous paralyser. L'Église de Jésus-Christ en France aujourd'hui est paralysée par toutes sortes de géants. Il y a des géants comme l'incrédulité, il y a les impossibilités humaines, il y a les échecs du passé. Il y a le passé, tout simplement, qui peut être un géant pour nous. La crainte, qui est un grand obstacle, un grand esclavage, et qui s'oppose à la dynamique de la grâce. La crainte, eh bien, est aussi un géant. L'angoisse peut être un géant qui nous paralyse. L'anxiété, la terreur, le doute aussi, et bien des choses encore, des obstacles. Notre travail peut être un géant. Des décisions à prendre peuvent être des géants qui se dressent devant nous et qui sont comme autant d'obstacles, eh bien, qu'on a du mal à surmonter. Et pourtant, eh bien, la Bible nous apporte le conseil de Dieu pour vaincre nos géants. Amen. Parce que là, c'était quand même du concret, n'est-ce pas? Il y a même eu une tête coupée. Alors, quand on examine le contexte, et c'est ce que nous devons faire ce matin, nous sommes géographiquement dans la vallée de Hela. Il y a deux côtés et il y a un ravin même de 100 mètres au milieu. Et puis alors il y a d'un côté le peuple de Dieu et de l'autre côté, eh bien, il y a les Philistins, les ennemis de Dieu qui se tiennent à proximité. Et nous sommes finalement au cœur d'une guerre psychologique. Et oui, elle existait déjà. Elle n'est pas née au XXe siècle, elle n'est pas née au XXIe siècle. La guerre psychologique, elle existe depuis la chute et même avant. Mais surtout depuis la chute parce que le diable, Satan, l'adversaire, puisque c'est ce que ça signifie, eh bien, est toujours et sera toujours dans une guerre psychologique nous concernant. Il sait qu'il ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, il est obligé d'utiliser des armes psychologiques et de nous faire craindre, de nous faire, eh bien, craindre le pire et de nous faire craindre aussi même sa présence, ses actions. Mais ce n'est que purement psychologique parce qu'il a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. C'est psychologique et c'est une guerre d'accusation souvent dans nos pensées ou bien pour nous amoindrir, pour nous avilir, pour nous dire que nous ne sommes rien, pour nous dire que nous ne valons pas grand-chose, même aux yeux de Dieu. Mais nous n'avons qu'à lire ce qu'écrit la parole de Dieu, la Bible, pour nous constater ce que Dieu pense de nous. Et Dieu pense du bien de nous. Et Dieu nous dit même que dès notre lever le matin, eh bien nous sommes bénis en lui, parce que nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Telle est notre position. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors nos géants, nous devons faire notre affaire comme le fait David. Et on va voir que lui va adopter la bonne stratégie et la bonne vision. Mais nous sommes aussi dans cette guerre psychologique. Car chaque jour, chaque matin, chaque soir, le lion qui rugit, le lion qui cherche qui se laissera dévorer, eh bien, vient tenter les enfants de Dieu, vient tenter aussi de nous saper notre joie, de nous saper notre paix, de nous saper la joie de la victoire et nous empêcher de louer celui que nous avons loué ce matin et qui seul est digne d'être loué et adoré. Et s'il peut nous ravir cette joie et usurper ainsi quelque part le trône de notre cœur, eh bien, il va le faire. Et son but, en nous déstabilisant, son but en nous faisant la guerre, son but en nous mentant, en nous accusant, c'est toujours de nous empêcher de voir Christ régner sur le trône de notre cœur. Et même si, bien sûr, physiquement, le diable ne peut pas trôner sur notre cœur, néanmoins, le fait qu'il nous empêche de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire à Jésus-Christ, eh bien, va nous empêcher de vivre comme si Jésus était sur le trône de notre cœur, parce qu'il nous aura sapé, il nous aura ravis, il aura kidnappé notre confiance en Dieu, et il aura sapé notre communion avec le Seigneur, et il aura sapé eh bien, cet esprit de louange, d'adoration qui doit être naturel à nos cœurs. Et le diable fait cette œuvre-là, qui est une œuvre de destruction, d'asphyxie du croyant. S'il peut asphyxier notre foi, alors que Dieu, lui, s'emploie à la booster chaque jour, eh bien, le diable le fera. C'est une guerre véritablement psychologique. Et le Philistin était devant les yeux du peuple d'Israël du matin au soir. Il s'est présenté ainsi 40 jours et il racontait la même chose. C'était pire que France Inter ou France Info. Il tenait le même discours, c'est écrit. Il était présent, il était toxique, il était nuisible. Il venait, il troublait le peuple de Dieu, il le tourmentait avec de la crainte. La crainte s'était emparée de tous, nous est-il dit dans ce que nous avons lu. Sa présence, lorsqu'il se déployait hors de l'armée des Philistins, pour venir narguer l'armée d'Israël, eh bien sa présence était nuisible. Sa présence était une synonyme de menace, menace physique, parce qu'il mesurait presque 3 mètres. C'était pas anodin, c'était une personne pas du tout comme les autres, finalement. Bien sûr, on y voit dans la nature de cet homme toute la notion du péché derrière, parmi ses peuples. Nous retrouvons peut-être des éléments de la Genèse au chapitre 6 avec les géants. On s'étonne qu'il y ait encore des gens comme cela qui habitaient sur la terre, des gens plus grands que la normale, simplement parce que peut-être le peuple d'Israël n'avait pas fait son boulot jusqu'au bout en éradiquant toute cette race de géants. Déjà du temps de Josué, nous est-il dit, il y en avait encore. Et nous le retrouvons ici, dans cette terre de Canaan, une terre où, eh bien, le péché régnait. Nous retrouvons parmi les peuples de la conquête, ceux qui vont être conquis par Josué, eh bien, nous retrouvons des gens ayant, par exemple, 6 orteils, et puis avec une taille monumentale. Et puis on retrouve encore, finalement, du temps de Samuel. Alors c'est étrange, ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Mais cet homme à cause de cet aspect-là, eh bien, il était synonyme d'une menace physique. Il suscitait l'effroi, la crainte, la terreur parmi le peuple de Dieu. Et nous ? Et toi ? Quel est le géant qui chaque matin se présente ? Quel est le géant qui chaque midi ou chaque soir va se présenter devant tes yeux ? Quel géant se présente devant nous toute la journée ? Il peut venir, ce géant, tout droit de notre passé récent ou de notre passé lointain ? Ou tout simplement, eh bien, c'est un géant qui est né il y a quelques jours ? Quel est ce géant qui nous empêche d'avancer dans la foi ? Qui nous empêche, eh bien, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée ? Quel est ce géant qui nous empêche de croître dans la maturité chrétienne ? Quel est ce géant qui m'empêche d'avoir une vie d'église dynamique ? Quel est ce géant qui m'empêche d'avancer ? Qui m'empêche d'avoir des pensées saines ? Qui m'empêche, eh bien, d'avoir des pensées dignes de la parole de Dieu, identifiables à la parole de Dieu, c'est-à-dire positives dans le sens de la foi, dans le sens des promesses que Dieu nous a faites ? Quel est ce géant qui empêche mes pensées, eh bien, d'être claires et même d'être clairvoyantes concernant ma propre situation, concernant la situation des autres, concernant la situation de l'Église ? Qu'est-ce qui obscurcit ma vision ? Quel est ce géant qui vient obscurcir ma vision ? Nous devons identifier ce géant et nous rappeler que Dieu avait ordonné à son peuple de conquérir la terre promise déjà sur 12 espions qui avaient été envoyés pour, eh bien, espionner cette terre, explorer aussi, et le rapport aurait dû être positif. Nous savons que 10 espions sont revenus avec le doute et l'incrédulité et des impossibilités au fond de leur cœur. Ces doutes avaient subsisté même au moment de la conquête. On lit par exemple dans Josué chapitre 11 verset 22, « Il ne resta plus d'Anakim, c'est-à-dire des géants d'Anak, des fils d'Anak, il ne restera plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gat et Ashdod. » Et où sommes-nous là ? Avec un géant qui vient de Gat. Donc vous voyez, ils n'ont pas fait le travail jusqu'au bout à cause de leur incrédulité. Ils auraient dû éradiquer cette population idolâtre, cette population avec des géants. C'était quelque chose d'anormal. Et la Bible nous dit « Ne resta plus de ces gens-là dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod. » Et ce Philistin vient de la ville de Gath. La ville de Gath donc sonnait comme un rappel de l'échec du peuple de Dieu à accomplir sa volonté à cause de son incrédulité, à cause de ses doutes, à cause de sa crainte, à cause de sa peur des géants. Et si on laisse les géants subsister quelque part, eh bien c'est de cet endroit qu'ils vont revenir. C'est bien de Gath qu'est revenu Goliath. Et ils émergent pour nous paralyser avec la peur. Le peuple de David avait hérité de ces géants, comme on hérite de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, selon ce que dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Et tous les géants qui vont nous faire face sont le produit de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, c'est-à-dire que nous avons en Adam à cause de la chute, à cause de notre nature pécheresse. Qu'est-ce qui nous paralyse ? Qu'est-ce qui te paralyse ce matin ? Quel est ce géant qui revient devant tes yeux ? Matin et soir. Ça peut être la haine, ça peut être de la rancœur, ça peut être le poids des échecs passés, et ça peut même être devenu un esclavage, une chaîne lourde à porter. Ça peut être une douleur sourde que tu n'as jamais pu exprimer. Ça peut être une offense qui t'a blessé, qui t'a meurtri, et qui perdure dans ta tête, et tu te dis « ben je suis nul ». Parce que si on m'a offensé de cette manière-là, c'est qu'on a raison de m'avoir dit ce qu'on m'avait dit, c'est que je suis nul, c'est que je ne vaux rien. Mais pourtant, cette offense-là nous fait souffrir. Et il y a besoin de la solutionner et d'y remédier. Ça peut être l'amertume. L'amertume, c'est le degré dernier, pratiquement, quand nous avons été offensés. Quand nous avons de l'amertume, ça nous tue la foi, ça nous tue la joie, ça nous tue la paix. L'amertume est un poison. Et le diable aimerait que ce poison envahisse notre cœur et nous empêche d'avancer. Le géant, ça peut être nos impossibilités humaines, on l'a vu, nos limites. Ça peut être une tentation particulière, un péché particulier qui nous tient. Et j'aimerais rappeler ce que le Seigneur a dit au travers de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1 verset 6, et on en a parlé la semaine dernière au travers du fondement du royaume de Dieu et de l'entrée du royaume dans le royaume de Dieu, qu'est la nouvelle naissance. Il a dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur le fera, malgré les géants. » Le Philistin, il va jouer avec la crainte du peuple de Dieu et il va même demander le combat physique. Vous avez déjà vu ces gars-là qui sont des fois devant un immeuble et puis si vous les regardez un peu trop, ils vont commencer à se dandiner et puis ils vont dire « Allez, viens là, viens, viens, viens vers moi là !» En gros, ils veulent boxer avec vous. Hein ? Et ce qui peut leur arriver de pire, c'est que le gars, il ne se dégonfle pas et puis il en met une. Hein ? Mais bon, ça c'est une autre question. Parce que ça peut arriver. Il suffit qu'il tombe sur un roc. Hein ? Mais le Philistin, il a joué avec ça. Et ce que j'ai retenu, et peut-être ça vous a frappé quand on a lu le passage, qu'est-ce qu'il a dit ? Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Donnez-moi un homme. Alors là, ça ne faut pas le dire deux fois au Seigneur. Parce que Dieu cherche un homme, déjà, qui érigera une clôture pour intercéder. Déjà, Dieu cherche un homme. Et il dit pourquoi ? Il cherche des intercesseurs. Dieu cherche aussi des combattants dans la prière, évidemment. Il cherche des combattants spirituels, des champions de Dieu. Et le champion de tous les champions, quand il était dit « Donnez-moi un homme », bien sûr, il y a eu David, et c'était un champion, dans ce récit que nous venons de lire, dans cette aventure que nous sommes en train d'explorer ensemble. Mais le champion de tous les champions, c'est le fils de David, c'est Jésus-Christ. Et quand le diable dit « Donnez-moi un homme », eh bien, Dieu a réglé le problème, il a donné un homme, Jésus-Christ, homme. Et Jésus a accompli la grande victoire qui est la nôtre. Jésus est mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles, et il a défait le péché, il a défait le diable, il a défait la mort même. C'est extraordinaire, c'est la victoire de Jésus, il est le champion de tous les champions. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Avec la victoire de Jésus-Christ, il y a eu effectivement un combat à Gethsémané, il y a eu un combat pendant tout le ministère de Jésus, il y a eu un combat évidemment jusqu'aux souffrances et à la mort du Seigneur, mais il y a eu sa résurrection et son ascension et sa glorification. Et ce que nous voulons retenir, évidemment, c'est la victoire. Et nous savons que Jésus a brisé la tête du serpent conformément à la promesse de Genèse, chapitre 3, verset 15, qui, pour votre instruction, est appelé par les théologiens le protévangile, c'est-à-dire l'évangile avant l'heure, avant le moment, avant le temps marqué. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Les Philistins avaient leur champion et finalement le peuple de Dieu va avoir le sien. Et il y a au verset 9 un défi avec une promesse vraie. S'il me tue, nous serons vos esclaves, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. On est toujours finalement dans la vie soit esclave, soit maître d'une situation. Nous sommes appelés par Dieu à la maîtrise des situations. Parfois nous avons peur du changement, alors nous subissons. Nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur des échecs, nous avons peur de la solitude et nous subissons. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui, à un moment donné, dit « Moi, je ne subis pas ». Moi, j'avais un chef de service avant, il me disait toujours, et ça me plaisait quand il disait ça, et ça m'est resté « Moi, je ne subis pas ». Et il ne subissait jamais une situation, il allait toujours à l'attaque. Il prenait les angles d'attaque qu'il fallait et il a toujours réussi dans sa vie grâce à cette philosophie. Il ne subissait pas. J'aime bien cet esprit positif. C'était un guerrier, le gars. Mais tout cela peut nous donner, voyez, la crainte qui habitait le peuple d'Israël lui a donné la tentation de vivre avec le géant. 40 jours avec le géant. Ça vous plairait, vous, de vivre 40 jours avec Satan ? Ça nous écœure. C'était trop long, déjà, d'accepter cette situation. Et David, il ne supportait pas de voir le peuple d'Israël gisant dans cette situation, acceptant l'échec, acceptant que ce gars-là, il blasphème, il s'en prenne à l'honneur d'Israël, qui était son Dieu. C'était déjà trop long pour un peuple censé appartenir à l'éternel Dieu. Depuis quand nous trouvons-nous paralysés par les géants ? Depuis quand avons-nous appris à vivre avec ces géants ? C'est malheureux. Parce que le Seigneur est comme ce chef de service dont je parlais, il ne veut pas que nous subissions. Jésus n'a pas subi sa vie. D'ailleurs, même pour mourir, il a dit « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. » Et je la livre librement. Il n'a jamais rien subi, le Seigneur. Il a subi uniquement ce qu'il voulait bien subir, les souffrances qui ont été les siennes, mais il n'était pas obligé. À un moment, on a voulu le précipiter d'une falaise. Eh bien, il est passé au milieu de tout le monde. On ne sait pas trop comment il a fait. Hein. Mais il est passé et personne n'a pu porter la main sur lui. Parce qu'il maîtrisait sa vie. Il maîtrisait la vie. Il ne subissait pas. Et nous n'avons pas à subir. Le Seigneur est celui qui combat à nos côtés. Et il veut combattre avec nous et pour nous. Et il nous dit, lève-toi. Comme l'a fait David. Il s'est levé. David s'est levé. Lève-toi. Nous avons vu que le géant, donc, tourmentait chaque jour le peuple. Et il ne faut pas vivre avec cette habitude d'être tourmenté, continuellement accusé, continuellement abaissé, comme si le diable, finalement, nous mettait dans la poussière et puis nous shootait dedans alors que nous sommes à terre, voyez, parce que c'est le genre. Hein. S'il y a de la lâcheté, il y a de la cruauté chez le diable. Ça arrive parfois que des gens qui se battent, ben, il y en a un qui est à terre et l'autre, il l'achève en tapant dessus alors qu'il est à terre. C'est le comble de la lâcheté. Eh bien, le diable, lui, il ne se gêne pas, il fait ça avec nous. Et s'il peut nous voir à terre et enfoncer encore plus notre tête dans le sable, eh bien, il va le faire, croyez-le. C'est pour ça que nous ne devons pas subir, mais nous devons avoir un langage de foi, on va le voir. Le peuple n'avait donc que ce géant pour vision. Vous imaginez, vous avez la télévision et tous les jours, vous voyez le même géant. Eh bien, eux, ils avaient comme vision le géant. Ils ne voyaient plus que ça. Ils n'avaient plus d'autre vision. Le verset 24 nous dit, « À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Vous vous rendez compte, des grands guerriers qui avaient battu d'autres peuplades, des grands guerriers qui avaient déjà fait des guerres, des vaillants héros. Ils ont eu peur ce jour-là. Le verset 25 nous montre que tout le monde parlait de ce qu'il fallait faire pour terrasser cet homme. Est-ce qu'il adviendrait si quelqu'un le terrassait? Et la récompense qu'il y aurait, mais personne n'y allait. Pourtant, « Donnez-moi un homme », avait-il été dit. Mais il n'y en avait aucun à ce moment-là qui s'est présenté. Ah, pour parler, il y avait beaucoup de monde. Dans la parole de Dieu, dans Juges, Déborah va dire dans son cantique que je ne sais plus quelle tribu était dans les conciliabules. Et ça, en France, on sait faire. Des conciliabules sur l'évangélisation, des conciliabules sur le combat spirituel. Mais quand il faut y aller, il n'y a plus personne. Parce qu'on parle beaucoup en France, mais on agit très peu. Nos politiciens parlent, ils n'arrêtent pas de parler. Puis alors, avec le poids des médias d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'arrêtent jamais même de parler, même 24 heures sur 24. Mais rien ne se fait. Le chômage est toujours aussi fort. Dans les Ardennes, il est toujours à 14%. Et ça fait des années que c'est comme ça. Parce qu'on parle, on parle, on parle. C'est la France. Il y a d'autres pays aussi où c'est comme ça, hein, rassurez-vous. Mais en Israël, par exemple, on parlait. Et voilà. C'est le Méditerranéen, il parle. Mais il ne faisait pas. Alors aujourd'hui aussi, on parle des bénédictions futures, dans le ciel. Ça va être beau, etc. D'autres parlent du réveil qu'on ne voit jamais aussi. Vous connaissez le réveil qu'on ne voit jamais? On parle de la bénédiction que générerait un réveil. Il serait temps surtout de nous réveiller, n'est-ce pas? Et de vivre le réveil. Et on dit qu'il faut qu'un ou plusieurs champions se lèvent. Mais très vite, en France ou ailleurs, il faut agir. Parce que quand il faut agir, moi, je l'ai déjà vu une fois, j'étais au milieu de 5 pasteurs. J'étais le 5e. Et on parlait d'évangélisation. Et les uns et les autres disaient les impossibilités pour aller annoncer l'évangile dans la rue. Au bout d'un moment, je me suis retiré de là parce que j'avais l'impression qu'ils avaient démoralisé un régiment. Hein ? Alors, ils parlaient des lois, des impossibilités d'avoir des locaux, des autorisations. Et moi, je vivais quelque chose de contraire à Châlons-en-Champagne, dont on m'avait dit que c'était très, très difficile comme ville. Je suis allé donc évangéliser. On s'est déguisé en Père Noël. On a fait un truc un peu spécial. Et puis, j'ai oublié de demander les autorisations. Et je suis allé vers la police municipale pour m'excuser. Et ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Tiens, on a même une idée pour vous. Vous vous mettez juste devant notre local. Et puis là, vous verrez, vous aurez une bonne acoustique et vous pouvez même prêcher. Voilà. Et eux, ils étaient en train de parler des impossibilités. Mais avec Dieu, tout est possible. Soi-disant que cette ville était fermée. On a pu, en toute liberté, annoncer l'Évangile, distribuer des Bibles dans la ville, en plein centre. Et du matin au soir, il y a des gens qui contemplent les impossibilités, alors que Jésus nous a dit qu'à Dieu, tout est possible. Mais qui allait alors donc se lever avec une autre vision? Dans Malachie, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens, l'honneur de mon nom, et l'on apporte une offrande pure. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. » C'est extraordinaire. Ça, c'est positif. Ça veut dire que Dieu est entendu parmi les nations. Jésus a parlé positivement. En Matthieu 24, verset 27, il a dit « En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'à son couchant. » Et nous, nous contemplons les impossibilités de Dieu et les impossibilités humaines, alors qu'à Dieu, tout est possible. Et il y a un autre horizon devant nos géants, cet nouvel horizon, cet autre horizon, pardon, il s'appelle le royaume de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu reprends espoir en pensant à ces paroles, en pensant au royaume de Dieu. Peut-être pensais-tu que tout était figé et appelé à être figé dans ta vie, que rien ne va changer, c'est ce que pensent beaucoup. Et peut-être que tu es en train de redécouvrir la possibilité de l'intervention miraculeuse de Dieu dans cette assemblée, dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Peut-être es-tu en train de réaliser que Dieu prend en main ta destinée, comme il prend en main la destinée de son Église. Peut-être tu croyais que Dieu t'avait abandonné personnellement, mais sache qu'il dit « Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas ». Et c'est valable pour toute la durée de notre vie. Peut-être tu ne voyais plus non plus la nécessité d'être un sacrifice vivant, rendant un culte raisonnable au Seigneur, quelqu'un qui s'offre à Dieu, qui accomplit des choses pour lui. Et tu es en train de dire « Mais si, finalement, je peux être utile au royaume de Dieu ». En tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit veut communiquer à chacun de nous ce matin. Et le Seigneur nous dit « Reprends du service, car je suis et dans ta maison. Je suis Yahvé, je suis dans ta maison. Emmanuel, Dieu avec nous, t'ordonne, reprends ta place véritable dans le corps de Christ et prends une décision. Détermine-toi. Tant que nous aimons tolérer les géants, nous lions l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Or, la première chose à faire, c'est de changer de vision. Être comme Moïse, qui tenait ferme comme voyant l'invisible. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. David voyait l'invisible. David voyait les myriades de myriades d'anges capables de venir le secourir face aux Philistins. Il était conscient que Dieu était avec lui. Il savait ce que Josué avait fait précédemment. Et il se considérait aussi comme un Josué en Dieu, en l'Éternel, dans le nom de l'Éternel. Il avait cette vision-là, et comme Moïse, tenant ferme comme voyant l'invisible. Et puis surtout, il a pris une décision face à l'impossible. David avait une autre vision que le géant. Il voyait déjà dans vision sa famille libérée et bénie, et non pas esclave des Philistins. Il avait en vision la bénédiction du roi des rois sur sa vie. Il voyait la libération aussi des taxes des Philistins, parce que c'était une réalité, c'est un poids qu'on nous enlève. Il n'avait pas besoin de gilets jaunes, lui. Il lui a suffi de couper la tête du géant pour que les taxes soient enlevées, puisque les taxes que devait verser le peuple d'Israël à cause des Philistins et du tribut qu'il demandait, eh bien, c'était un poids. Et lui, grâce à sa victoire, grâce à cette tête coupée, eh bien, il n'y a plus de taxes. Il a vu aussi les possibilités de Dieu au-delà du géant. Il voyait au-delà du géant. Et le principe spirituel qui se dégage dans une telle situation, c'est que quand on abat notre géant, quand on abat le géant qui se tient devant nous, le roi des rois peut agir et nous bénir, et la dette est enlevée. Le poids qui s'est accumulé sur nous est enlevé. David, il a pris la décision de combattre. Il n'était pas de ceux qui parlent et ne font rien. Il n'était pas comme ses frères. Alors il nous faut combattre et vaincre et prendre des décisions dans notre vie. Plus dur à prendre, c'est une décision. C'est de nous déterminer et de dire « je ne veux plus être comme je suis, mais je veux être comme Christ veut que je sois ». Et quand on prend cette décision, le Seigneur peut alors nous transformer. Le Seigneur peut enfin ouvrir les vannes de son royaume pour nous bénir. Dans 1 Samuel, au chapitre 30, verset 6, il y a une autre situation que David a vécue plus tard, alors que le peuple venait de tout perdre, alors que le peuple pleurait, que les femmes avaient même été kidnappées, et David avait même été menacé d'être lapidé par son propre peuple, par ses propres hommes. Et la Bible dit qu'il s'est fortifié dans l'Éternel. Sa détermination à encourager le peuple d'Israël à reprendre le combat venait de ses souvenirs de délivrance passée. Il s'est souvenu de l'ours qu'il avait battu, évidemment. Il s'est souvenu d'avoir enlevé les brebis de la gueule du lion. Et il s'est souvenu aussi de Goliath au moment où c'est arrivé. C'était des souvenirs positifs. Et souvent, nous, on se souvient que des choses qui nous ont découragés, des choses qui nous ont minés, des choses qui nous ont fait du mal. Mais nous devons nous souvenir des bénédictions de Dieu, des bienfaits de Dieu et des souvenirs positifs, encourageants, qui ont rendu notre foi résolue, inébranlable à un moment donné. Et c'est ce qui va encore rendre notre foi inébranlable et déterminée au moment où nous faisons face à des géants. De quoi se nourrissent nos souvenirs ? Des échecs passés ? Ou bien des victoires passées et des victoires à venir, parce que la vision, la vraie vision que Dieu communique, c'est une vision aussi des victoires à venir. On dit toujours qu'un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, dit toujours « Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. » Il y a un frère qui m'a répété quand j'ai passé par différentes difficultés la même chose. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Le meilleur est devant toi. » Je peux vous dire qu'avec des paroles comme ça, on est nourri. C'est qu'une petite parole, finalement. Ce n'est pas des grandes phrases. Mais je peux vous dire que ça vous tient. Et quand vous avez, après la victoire, vous dites, il a eu raison de me dire ça. Et ça a été encourageant. David a aussi été irrité. On voit qu'il était excité, il était bouillant. Là, il ne supportait pas cette situation. Il était irrité de voir la gloire de Dieu bafouée. Et Dieu veut voir des hommes et des femmes assoiffés de sa gloire, assoiffés de lui, désireux de remporter la victoire. Désireux de se lever, de prendre des décisions qui vont tout changer, des hommes qui tiennent ferme comme s'ils voyaient l'invisible. Ce sont de telles personnes qui font la différence. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de se battre, des gens qui n'acceptent pas le géant. Un seul s'est levé et tout a changé. Et s'il y a un seul d'entre nous qui se lève face au géant et qui témoigne la semaine d'après de la manière dont il a vaincu son géant, ça va changer toute la face de l'Église aussi. Si nous nous levons, nous pouvons changer l'atmosphère d'une Église, l'environnement d'une Église, et après, eh bien, nous produisons quelque chose qui nous dépasse. Et pour alimenter nos bons souvenirs, la Bible nous dit que David a pris la tête de Goliath et l'a emmené avec les armes dans sa tente. Quelle décoration, hein ? Eh bien, c'est un objet de déco, ça s'appelle un trophée. Les chasseurs savent de quoi je parle à ce moment-là. Bon, là, c'est la tête d'un Goliath, mais bon, c'était très symbolique. Et nous, nous devons brandir la tête du serpent, nous, qui était brisé par Jésus-Christ. Et là, nous rappeler que Jésus a brisé sa tête. Amen. Ce sont des principes sous-jacents, caractère qui s'est manifesté dans David, qui est aussi le caractère qui s'est manifesté chez Jésus-Christ, qui a jusqu'au bout durci sa tête comme un diamant pour aller jusqu'à Jérusalem, mourir pour nous. Remporter la victoire sur le Goliath des Goliaths. Il a travaillé dans l'ombre, David, avec des petits commencements, et il a vu la force miraculeuse de Dieu l'aider et combattre pour lui et avec lui. C'est ce qu'il va raconter au travers de ces épisodes durant le fait qu'il était en train de garder les brebis. Il a pris sa charge, il est parti, et il nous faut prendre aussi notre responsabilité et ne pas laisser la gloire de Dieu être bafouée. Il s'est défait de ses bagages, nous a-t-il dit, et nous devons nous dépouiller à notre tour de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous leste. Ça parle de notre confort personnel dont des fois il faut se dépouiller pour pouvoir avancer plus vite et plus fort pour le Seigneur. David s'est détourné de son frère Eliab, il ne l'a pas laissé son frère le rabaisser à son niveau. Et des fois dans l'Église, il y a des gens qui peuvent vous rabaisser à leur niveau, qui parfois est bas. Parce que ça les rassure quelque part. Et c'est pareil dans la vie. Vous savez, des fois, on fait une différence entre ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas grande différence. Vous savez, quand vous êtes dans le milieu du travail, eh bien, il y a des gens qui veulent vous rabaisser à leur niveau. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. Il peut y avoir des gens qui veulent vous rabaisser à leur niveau parce qu'il n'est pas très haut, leur niveau. Mais David, lui, il s'est détourné de son frère Eliab et il ne s'est pas laissé rabaisser au niveau spirituel d'Eliab, qui était quand même bas puisqu'il était dans l'incrédulité. Et nous ne devons pas nous laisser abaisser au niveau des autres, à leur langage d'incrédulité, à leur répétition incessante des impossibilités qui existent devant nous. Même si c'est un cher frère, même si c'est une chère sœur, Nous avons notre propre identité en Christ. Nous ne sommes pas tributaires de l'identité des autres. Rappelez-vous, je ne subis pas. Il s'est délesté des limites des autres également. On a voulu lui faire endosser l'armure de Saül, et avec les armes de Dieu, mais qui étaient celles de Saül. Il n'a pas voulu de tout cela, il a pris une pierre et une fronde. C'est bizarre que personne ne me reprenne parce qu'il avait 5 pierres, pas une. Même s'il en a pris une parmi les 5. Et entre parenthèses, savez-vous pourquoi il y avait 5 pierres ? Ben parce que Goliath avait 4 frères. Alors il devait le savoir, David, et il avait une pierre pour Goliath, il en avait pris 4 au cas où il devait flinguer les 4 autres. Hein ? Vous ne saviez pas, ça c'est écrit dans la Bible, dans un autre passage. Je ne l'ai pas là tout de suite, mais je pourrais vous le montrer en le retrouvant. Il avait 4 frères. Rien n'est du hasard dans la parole de Dieu. Donc les 5 pierres, elles viennent de là. Dieu a donc pu accomplir le miracle dès lors que David a fait le pas pour Dieu, le pas de la foi. David n'a pas parlé trop longtemps avec le Philistin, contrairement à ses frères et à tous les autres soldats d'Israël. Pourtant, l'autre le toisait du haut de sa taille, du haut de sa superbe. Il avait compris l'enjeu spirituel, et c'est pour ça qu'il lui livrait une guerre psychologique. À mon avis, il commençait un petit peu à se demander ce qui se passait, le Philistin. Mais David va avoir ce langage aujourd'hui. L'autre, il lui disait, tu vas voir, je vais faire de toi ma pâture. Et David lui disait, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je vais te couper la tête. L'autre, il commençait, à mon avis, à baliser. Il savait que dans Caleb et Josué étaient les deux espions qui sont revenus avec un rapport positif et ils ont dit à propos des géants que les autres disaient, nous voyons comme des sauterelles vis-à-vis des géants, tandis que Caleb et Josué ont dit, nous, on est capable d'y aller et on va en faire notre pâture. Et littéralement, dans l'hébreu, faire sa pâture de quelque chose, ça veut dire, ça va être notre pain, on va en faire notre pain. En gros, on va les bouffer, quoi. Hein, si on voulait être un peu péjoratif comme ça, on dirait, je vais en faire de la pâtée, quoi, en gros. Hein. Voilà ce que disaient Caleb et Josué. Vous voyez, ça, c'est le langage des hommes de foi. Et nous sommes appelés à avoir un autre langage qui s'appelle le langage de la foi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et la Bible, verset 48, qui suit le verset 47, vous vous en doutez, eh bien, dit aussitôt. Donc ça n'a pas traîné, c'est aussitôt. Aussitôt. Et le Seigneur nous parle également de notre propre victoire. Il nous dit de ne pas céder du territoire, de ne pas céder à la tentation de dire demain je ferai, demain je donnerai, demain je pardonnerai, demain je me réconcilierai, demain je vaincrai mon géant, demain je m'engagerai, demain je me ferai baptiser, demain. Demain a cassé bien des destinées, frères et sœurs. Demain a cassé des carrières. Demain a cassé des ministères. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Et nous devons décider d'affronter nos géants, d'aller contre eux au nom de Jésus et de les vaincre par une vision renouvelée, un langage de foi renouvelé, une foi qui découle de ce langage que nous allons avoir. Et nous souvenons que Dieu est le Dieu des délivrances. Ne plus céder à l'effroi, ne plus céder à la peur, parce que nous sommes sous la grâce de Dieu, et ni à la crainte, mais de faire face à ce géant qui vient matin et soir, prendre l'armure de Dieu et aller l'affronter avec les armes que Dieu nous donne. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, et je puis tout par celui qui me fortifie. Ça a été rappelé ce matin, nous devons ainsi maîtriser cette vision, maîtriser ce langage de la foi, et en nous levant, eh bien, nous allons permettre qu'un encouragement soit prodigué aux autres au travers de l'intervention que Dieu ne va pas manquer de faire. Et nous allons ainsi prendre nous-mêmes courage, espérer et terrasser les géants à leur tour, tous les géants qui vont se dresser devant nous. Alors ayons la vision de Dieu pour notre vie et fuyons l'ennemi, mais ne fuyons pas la destinée qu'il a en réserve pour nous. Je voulais dire, ne fuyons pas l'ennemi, fuyons plutôt le langage du doute qui nous fait voir l'ennemi tel qu'il n'est pas. Fuyons cette guerre psychologique et prenons les armes de la victoire, ayons le langage de la foi et ne fuyons pas la destinée que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Amen.